Vous êtes sur RTL.
Et à 5h, un journal complet avec à la une cet espoir. Malgré la barre des 100 000 morts du Covid franchie à l'hôpital, la plupart des services de réanimation semblent connaître une relative accalmie en cette fin janvier. C'est le cas à Marseille, notamment, durement touché ces dernières semaines. Les vacances qui font tâche, celle de Jean-Michel Blanquer à Ibiza. C'est depuis les Baléares que le ministre a préparé le fameux protocole scolaire qui a suscité la fureur des enseignants. Et puis cette enquête d'un ancien agent du FBI sur l'identité de la personne qui aurait livré Anne Frank et sa famille aux nazis. Des révélations qui sèment le trouble et nous vous expliquerons pourquoi.
RTL Matin.
Mais d'abord donc cette barre symbolique qui a été franchie hier soir. 100 000 décès enregistrés en France à l'hôpital depuis le début de l'épidémie de Covid, dont près de 300 encore ces dernières 24 heures. Pour autant, et je vous le disais, les tout derniers chiffres incitent à l'optimisme. Nous allons y revenir avec la brigade RTL juste après ce journal. Ce qui est certain, c'est que la pression commence à redescendre dans les services de réanimation, comme ici à Marseille, à l'hôpital de la Timone. Étienne Baudu.
Dans ce service, depuis le début de la pandémie, une partie des lits est réservée aux patients atteints de formes graves de la Covid. Mais preuve d'une certaine accalmie, sur les 16 lits de réanimation, 12 étaient occupés la semaine dernière par des patients Covid. Ils ne sont plus que 6, pour le plus grand soulagement du professeur Marc Guénier, le chef de service.
Il y a 3 semaines, dans ce service de réanimation qui était complètement plein, dès qu'un patient était susceptible de sortir, le lit était déjà occupé à l'avance. Et là, ce n'est plus le cas. Là, on a un box de libre qui est en attente d'admettre un patient, mais pour l'instant, on n'a pas de demande pour occuper ce box. Tout à fait, pourvu que ça dure.
Mais le professeur Guénier ne crie pas victoire. On n'est jamais à l'abri de surprises avec ce virus et ses variants, explique de son côté Julie. Elle est infirmière.
Il y a une petite accalmie, mais bon, jusqu'à quand elle va durer, on ne sait pas. Peut-être que c'est jusqu'à la fin de la semaine et ça repartira la semaine prochaine. Est-ce que c'est parti pour 15 jours ou un petit mois d'accalmie? Ça, l'avenir nous le dira. On le souhaite. Oui, effectivement. Ça tire, oui, on est très épuisé.
Épuisé, mais la machine ne s'arrête pas pour autant de tourner. La PHM a rouvert des blocs opératoires pour reprendre des opérations qui avaient été déprogrammées.
Un reportage signé Étienne Baudu. Autre espoir avec cette nouvelle arme contre le Covid, la pilule mise au point par Pfizer. Le Paxlovid, c'est son nom, qui sera produit à Mourinx dans les Pyrénées-Atlantiques, sera disponible à la fin du mois sur prescription médicale et réservée aux personnes fragiles testées positives. Ce médicament réduirait de 90% le risque de développer une forme grave. Alors que plusieurs syndicats d'enseignants et de lycéens appellent de nouveau à la grève après-demain jeudi, Mediapart épingle Jean-Michel Blanquer. Selon le média en ligne, le ministre de l'Éducation se trouvait à Ibiza en vacances lorsqu'il a dévoilé dans la presse le protocole sanitaire de rentrée, jugé tardif, largement critiqué par les parents et les professeurs. Alors le ministère confirme ses vacances dans les îles Baléares, mais affirme que le ministre a continué de travailler à distance. Des explications qui risquent d'avoir du mal à convaincre Thomas Després.
Oui, une interview qui déjà avait fait polémique, un protocole sanitaire jugé déconnecté, révélé sur un site internet payant, moins de 24 heures avant la rentrée. Pour certains syndicats d'enseignants, c'était déjà beaucoup, mais c'était sans savoir que l'entretien en question avait été réalisé à près d'un millier de kilomètres de la capitale. À Paris, les journalistes du Parisien, au Baléares, le ministre de l'Éducation nationale, les pieds dans l'eau. Ce 1er janvier, il est en vacances, en famille. C'est ce que nous apprend le site Mediapart hier soir, mais le ministre n'a pas arrêté de travailler pour autant, nous jure son cabinet. Il a enchaîné les réunions avec le Premier ministre, avec Olivier Véran. Mais pour Yannick Jadot, cet épisode illustre le mépris, l'irresponsabilité du ministre. Il demande sa démission, même son de cloche pour l'insoumise Mathilde Panot. Trop c'est trop, écrit-elle sur Twitter. C'est indécent, dit quant à lui Gilbert Collard. Commentaire gêné d'un conseiller du gouvernement hier soir. C'est sûr que ce n'est pas du tout une bonne séquence.
Thomas Després du service politique de RTL. Éric Zemmour, condamné lui pour provocation à la haine, le polémiste désormais candidat à la présidentielle, écope d'une amende de 10 000 euros pour avoir traité de violeurs et d'assassins les mineurs isolés. C'était sur la chaîne CNews. Un jugement qu'il qualifie d'idéologique et de stupide. Il annonce qu'il va faire appel. 13 mois après la disparition de Delphine Jubilard, de nouvelles recherches sont menées dans le Tarn pour tenter de retrouver son corps. Les fouilles vont durer plusieurs jours, non loin de la maison de la victime, dans une ferme avec l'aide d'une unité de l'armée. Un lieu identifié d'après le témoignage d'un co-détenu du mari, Cédric Jubilard, qui reste le principal suspect dans cette affaire. Il est en prison depuis le mois de juin. RTL 5h05. Qui a trahi Anne Frank? Le titre du livre qui paraîtra demain révèle pour la première fois le nom de l'homme qui aurait livré Anne Frank et ses proches aux nazis. Il s'agirait d'un notaire, Arnold Vandenberg, juif lui aussi, qui a dénoncé la jeune fille et sa famille pour tenter de protéger la sienne. Des révélations qui rendent cette tragédie un peu plus douloureuse encore, même si l'identité de cet homme n'était pas inconnue de ceux qui enquêtaient sur la mort d'Anne Frank, Émilie Bojard.
Oui, son nom apparaît dès 1963 lors de l'audition d'Otto Frank, le père d'Anne et le seul survivant de la famille. Otto Frank explique alors à la police avoir reçu une lettre anonyme dénonçant le notaire. Mais l'enquête s'arrête là. Otto Frank ne veut pas non plus se lancer dans une chasse aux sorcières. Pourtant, plus d'un demi-siècle plus tard, le nom d'Arnold Vandenberg refait surface. Le notaire connaissait les cachettes de milliers de juifs. Il aurait donc pu donner des adresses en échange de sa liberté. Les enquêteurs révèlent aussi qu'ils n'ont trouvé aucun Arnold Vandenberg dans les registres des camps de concentration, ni le nom des membres de sa famille proche. Alors il ne s'agit pas aujourd'hui de lancer une procédure contre cet homme qui est décédé en 1950, mais d'apporter des réponses quant au mystère qui entoure la dénonciation de la famille Frank, tout en rappelant que le responsable de la mort d'Anne Frank reste le régime nazi du Troisième Reich.
Et nous en parlerons de cette enquête avec notre invité à 6h15, le président du Consistoire Central, l'institution qui représente aujourd'hui les Juifs de France, Maître Élie Corchia. Le sport, troisième victoire en trois matchs pour les Français à l'Euro de handball. Les Bleus se sont imposés 29-25 hier soir face aux Serbes en phase de poule. Ils sont désormais qualifié pour le tour principal. Roxana Maracineanu était hier soir l'invitée d'RTL. La ministre des Sports est revenue sur le dossier Djokovic et sur cette interrogation. Pourra-t-il disputer Roland-Garros au mois de mai? La réponse est non, non pour l'instant, tant qu'il n'est pas vacciné. La règle vaut d'ailleurs pour tous les sportifs, quelle que soit la compétition. Écoutez-la.
La règle pour valider ce pass vaccinal, elle sera fixée par décret. Ce décret, il sortira en fin de semaine ou en même temps que la loi. On va y réfléchir avec le ministre de la Santé, l'ensemble des secteurs, et ce sera écrit par décret. Qu'est-ce qui permettra de valider un pass vaccinal? Est-ce que c'est uniquement le vaccin? Est-ce que c'est aussi le fait de se remettre de la maladie? Et puis la possibilité aussi et la manière de valider tout ça lorsque ça s'est passé à l'étranger et que ce sont des personnes qui vivent ailleurs, qui viennent avec ce pass vaccinal en France. Nous, on va faire la liste prochainement avec les fédérations, les organisateurs d'événements, des problématiques qui se posent. Par exemple, la validité des vaccins qui ont été faits dans d'autres pays. Comment permettre aussi l'accès aux vaccins pour des personnes qui n'auraient pas accès dans leur pays au vaccin, et comment la France pourra se positionner sur ce sujet.
La ministre des Sports invitée hier soir de Julien Cellier sur RTL. Et puis Cristiano Ronaldo, honoré par un prix spécial de la FIFA à Zurich lors d'une soirée de récompense. Le joueur portugais devenu en septembre le recordman de buts inscrits en sélection, 115 au total sous le maillot du Portugal. C'est le Polonais Robert Lewandowski, buteur en série du Bayern Munich, qui lui conserve le titre de meilleur joueur de l'année.